Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour frère Baptiste Sauvage.
Bonjour.
C'est une dernière ligne droite dans cette série en ce beau mois de la Vierge Marie. Avec ce visage incontournable, avec de nombreux livres que l'on peut retrouver d'ailleurs aux éditions du Carmel, avec le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, je le rappelle, fondateur aussi de l'Institut Notre-Dame de Vie. Un dernier volet, je vous propose d'ouvrir ce dernier volet en cette année spéciale sur la vie de prière, hein, pour tout baptiser, sur cette sainteté accessible à tous. Le bienheureux Marie-Eugène a montré que la sainteté n'est pas réservée à quelques élus,
oui,
et une élite. Ça, c'est aussi sa marque, ça, c'est sa parole. C'est aussi le prédicateur qui parle.
Oui,
exactement. Grand prédicateur.
Exactement, ouais. Oui, tout à fait. Et probablement aussi le disciple de la petite Thérèse, qui découvre qu'à travers sa petite voix d'enfant spirituel, eh bien, le chemin de la sainteté devient ouvert à tous, ou en tout cas tous ceux qui consentent à se reconnaître petits et à pratiquer des vertus ordinaires, comme Thérèse, mais avec un grand amour.
Alors ça, c'est tout un programme.
Oui.
Ce programme de sainteté, c'est en vue d'une vie éternelle.
C'est ça.
Donc ça pose la question de cette liberté, ça pose la question de notre oui à Dieu ou de notre refus de Dieu.
Oui, exactement.
Qu'est-ce que je décide ? Est-ce que je décide de dire oui à ce programme de vie ?
Oui, oui, et on pourrait dire que ce sont des petits oui que le Seigneur suscite progressivement pour entrer dans ce grand oui. Et le Seigneur aussi sait nous séduire pour que nous disions oui, c'est-à-dire qu'il il se manifeste délicatement en respectant le cheminement et puis la croissance, le rythme de chacun. Donc il est à la fois puissant et doux, et ce oui, justement, il ne l'impose pas, mais il nous invite à lui faire confiance, à lui dire oui, évidemment sans nous y forcer. Donc il reste toujours possible, et c'est le risque qu'il a pris, hein, en nous donnant cette liberté, que nous détournions de lui.
Alors, quelles sont toutes les conditions favorables pour entrer dans ce chemin et dans ce grand oui en vue de la sainteté, frère Baptiste ?
Oui, je reviendrai volontiers sur la sainteté ordinaire dont parle la petite Thérèse. C'est-à-dire que on peut effectivement faire une sorte d'exercice mental en nous représentant un couteau sous la gorge et en nous demandant si nous allons consentir encore à dire oui à Jésus dans une scène extraordinaire, mais peut-être que cette scène n'arrivera jamais et que finalement nos oui seront plutôt sous la modalité du oui de tous les jours. Et c'est plutôt ce genre de petit oui qui permet peut-être un jour aussi de nous abandonner dans la plus grande adversité entre les mains de Dieu et de nous préparer à nos derniers instants à dire ce grand oui à Jésus qui nous prépare à la vie du ciel. Donc je pense que la sainteté, elle se à l'école de la petite Thérèse, du père Marie-Eugène, elle se joue au quotidien, ce petit oui pour prendre ce temps de prière avec fidélité. Ce petit oui pour ouvrir les Écritures, où d'ailleurs, justement, on a une sorte de panorama de toute l'histoire humaine et des différentes réponses que les hommes peuvent dire à Dieu quand ils frappent à la porte de leur cœur.
Alors là, si parmi les auditeurs qui vous écoutent, hein, dans cette série depuis le début de la semaine, on parle de sainteté dans ce dernier programme et ces dernières minutes. Je ne suis pas dans une vie ordonnée, mais complètement désordonnée, est-ce que c'est encore possible pour moi de prendre ce chemin de sainteté en vue de l'éternité ?
Oui, et c'est encore plus, on pourrait dire, souhaitable.
Alors concrètement, là, un exemple, je vis dans le péché, je vis dans l'adultère. Je suis mariée, je vis dans l'adultère.
Oui, bah alors le déjà je pense le premier acte à poser, encore une fois je convoque la petite Thérèse pour parler du père Marie-Eugène, mais je suis sûr qu'il ne m'en voudra pas. Je pense que le premier acte à poser, c'est de voir que le Seigneur ne se fait pas l'accusateur, c'est le nom qu'on réserve à Satan, hein, l'accusateur de nos frères, mais il est plutôt le bon berger. Donc cette prise de conscience d'une situation désordonnée dans laquelle je peux être plongé ne doit pas éveiller en moi un sentiment de peur, même s'il est légitime, parce que on se rend compte de l'inadéquation entre notre péché et la sainteté à laquelle le Seigneur nous appelle, mais cette prise de conscience doit surtout, alors ça prend le temps qu'il faut, hein, éveiller un sentiment de confiance. Le Seigneur est tendre et miséricordieux, il n'attend qu'une chose, c'est justement de voir son enfant courir entre ses mains, et Thérèse dit que justement cette manière confiante de présenter mon péché au Seigneur pour qu'il le pardonne et qu'il m'en délivre, c'est une occasion d'avoir sur lui un empire encore plus grand. C'est-à-dire qu'il vient d'autant plus volontiers que je lui présente mon péché avec confiance pour qu'il puisse le transformer. Alors, on connaît les moyens ordinaires, hein, celui de la confession, où l'on fait l'expérience de la miséricorde divine, et puis celui de la conversion qui passe par des étapes. Et une des premières étapes dont parle le père Marie-Eugène à l'école de Thérèse d'Avila, c'est justement cette vie ordonnée. C'est-à-dire que ce qui est désordonné doit être remis en ordre. On pourrait dire que ça passe par un emploi du temps. qu'est-ce que je fais du temps qui m'est donné? Est-ce que je le consacre à Dieu, premier servi, et ensuite à mon devoir d'État? Ou alors, est-ce que, justement, je fuis le réel qui m'appelle à travers un agenda bien précis? Donc, ça peut être une première manière de commencer ce chemin de conversion. Et mine de rien, le Seigneur voit ces petits efforts que nous faisons. Et sans nous en rendre compte, peut-être qu'il va prendre de plus en plus les commandes de notre existence et la transformer sans que nous nous en rendions compte.
Alors, encore une question aussi de dépossession.
Oui, c'est ça. La sainteté est toujours possible. Il n'y a jamais de situation impossible pour Dieu.
Alors, qu'est-ce qui distingue la sainteté de la perfection, frère Baptiste ?
Il me semble qu'il faut vraiment... on pourrait vraiment prendre ces mots comme équivalents, ce qui signifierait que justement la perfection de la sainteté n'est pas la perfection de notre idéal ou de notre imaginaire de la sainteté. C'est plutôt une perfection de la confiance. Pour Thérèse, plus elle se rapproche de Jésus, plus elle voit sa faiblesse et plus elle s'abandonne avec confiance entre les mains de Dieu, et donc plus elle devient sainte. Donc pour elle, la sainteté coïncide aussi avec la prise de conscience d'une imperfection, mais en tant qu'elle est offerte. Et c'est peut-être ça la véritable perfection, c'est de s'offrir parfaitement, même à travers ces nouvelles faiblesses, ces nouvelles misères que nous découvrons à mesure que la lumière du Seigneur nous éclaire.
Et dans la prière.
Et dans la prière, évidemment. Oui. Ça peut être un très bon exercice, d'ailleurs, pendant ce temps d'oraison, que de s'offrir avec sa faiblesse. Ouais.
Alors, on parle beaucoup d'oraison et de prière. Hein. On peut prier dans tout lieu. On peut prier et faire oraison partout.
Frère oui,
Baptiste,
bien sûr.
Baptiste Carme, pas spécialiste, mais la vie d'oraison au Carmel est importante dans votre quotidien.
Et ce que l'on dit souvent, c'est que justement, c'est ce temps plus spécial qu'on consacre à l'oraison, donc un quart d'heure, une demi-heure, 2 heures chez les carmes et les carmélites.
Et le fameux quart d'heure de Sainte Thérèse d'Avila.
Ou le fameux quart d'heure, c'est ça. Donc ce temps qui est pris dans cette fameuse vie ordonnée dont on vient de parler et qui n'est pas repris justement, ce temps plus spécial consacré à l'oraison, c'est justement celui qui permet de vivre une vie d'oraison ensuite au quotidien, en marchant dans la rue, dans le métro, au travail, de faire ses pauses où l'on se plonge en Dieu et peut-être on intercède pour les personnes qu'on rencontre.
Donc on veut prier partout.
Exactement.
En tout lieu.
Voilà la sainteté.
Merci de cette série, frère Baptiste Sauvage, directeur des éditions du Carmel. On peut conseiller donc plein de livres et surtout, je vais donner le site et rappeler le site des éditions, éditions du Carmel, tout en minuscule.com. Et je vous proposais, frère Baptiste Sauvage, vous êtes frère et prêtre, de terminer cette série avec une bénédiction pour tous les auditeurs et toutes les auditrices qui vous ont suivi. Merci.
Et bien que par l'intercession du bienheureux Marie-Eugène et de Notre-Dame du Mont-Carmel, Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.